Vous écoutez France Culture.
Jeu de société de David Lodge. Dans une adaptation de Juliette Eman. Septième épisode.
Tous les mercredis de ce deuxième trimestre à Remidge, Robin Penrose quittait son milieu habituel et traversait la ville pour se rendre à l'usine Pringle dans Wolseley West. Au plus profond de ses pensées et de ses sentiments, elle tirait une satisfaction subtile d'être liée ainsi à l'usine et un certain sentiment de supériorité par rapport à ses amis. Maintenant, elle menait cette autre vie, un jour par semaine, et avait presque une autre identité même. C'était comme si la Robin Penrose, stagiaire à l'usine, était le double de celle qui, les six autres jours de la semaine, s'occupait de littérature féminine, de romans victoriens et de théories littéraires post-structuralistes. Un être moins consistant, plus insaisissable, mais tout aussi réel. En traversant, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, cette frontière qui séparait ces deux zones, dont les valeurs, les priorités, le langage et les coutumes étaient si diamétralement opposés, Robin avait l'impression d'être comme un agent secret. Et, comme les agents secrets, il lui arrivait parfois d'avoir des états d'âme et de mettre en doute les valeurs de son propre camp.
Tu sais, Charles, il y a des millions de gens autour de nous qui ne s'intéressent pas le moins du monde à ce que nous faisons.
Quoi ?
Bien sûr, eux ne savent pas ce que nous faisons. Mais même si nous voulions le leur expliquer, ils ne comprendraient pas. Et même s'ils comprenaient ce que nous faisons, ils ne comprendraient pas pourquoi nous le faisons, ni pourquoi on nous paie pour le faire.
Tant pis pour eux.
Mais ça ne t'inquiète pas ? Que tout ce qui nous passionne, le post-structuralisme par exemple, et toutes ces choses dont nous discutons et sur lesquelles nous lisons et écrivons à longueur de temps, ça ne t'inquiète pas de voir que 99% de la population s'en fout comme de l'an 40 ?
Pourquoi veux-tu que ça me gêne ?
Mais quand Wilcox commence à me taquiner et à me dire que les diplômes de lettres sont une perte sèche pour un pays, alors
je ne peux pas expliquer le post-structuralisme à quelqu'un qui n'a pas même découvert la tradition humaniste.
Précisément. Mais est-ce que de ce fait, nous ne devenons pas des marginaux ?
Les marges impliquent un centre. Mais l'idée de centre, c'est précisément ce que le post-structuralisme remet en cause. Une fois que tu acceptes l'idée qu'il puisse y avoir un centre devant des gens comme Wilcox, ils vont tout de suite en revendiquer la propriété et tout justifier par référence à ça. Démontre-leur, en revanche, que c'est une illusion, une erreur de raisonnement, et leur position s'effondre. Nous vivons dans un monde décentré.
Je sais. Mais qui est-ce qui paie ?
Qui est-ce qui paie ?
C'est toujours ce que répète Wilcox. Qui est-ce qui paie ? Le pain ne vous tombe pas tout cuit dans le bec. Il dirait, je l'entends d'ici, qu'il faut bien que quelqu'un paie nos séminaires sur le déconstructionnisme. Pourquoi veux-tu que la société paie pour s'entendre dire des choses comme « on ne dit pas ce qu'on veut dire » ou « on ne veut pas dire ce qu'on dit » ?
Parce que c'est la vérité.
Je croyais que la vérité, ça n'existait pas, dans l'absolu.
De quel côté es-tu, Robin ?
Je me fais l'avocat du diable.
Après tout, pour ce qu'on nous paie.
La gestion de l'usine Pringle n'avait rien à voir avec son métier de professeur. Pourtant, Robin Penrose avait parfois l'impression que Vic Wilcox avait la même relation avec ses subordonnés qu'un maître avec ses élèves. Elle sentait bien qu'il faisait tout son possible pour enseigner quelque chose aux autres hommes, pour les encourager et les inciter à envisager les activités de l'usine d'une autre manière. Il aurait été bien surpris si on lui avait dit qu'il utilisait la méthode socratique. Et pourtant, c'était le cas. Il essayait d'amener les autres directeurs et les cadres moyens, et même les contremaîtres, à identifier eux-mêmes les problèmes et à trouver, par leur propre raisonnement, la solution à laquelle il était lui-même parvenu. Et il faisait cela avec beaucoup d'adresse. C'était un tyran astucieux, mais un tyran tout de même. De plus, jamais en échange, il ne semblait reconnaître ses talents professionnels à elle. La discussion acharnée qu'ils eurent à propos de la publicité pour les cigarettes Silk Cut en fournit un exemple flagrant. Vic et Robin rentraient d'une visite dans une fonderie de Derby. Tous les 2 ou 3 kilomètres, ils passaient devant la même affiche gigantesque collée sur des panneaux publicitaires. C'était une photo représentant un grand morceau de soie violette ondulant au vent dans lequel il y avait une petite fente, comme si on avait déchiré l'étoffe avec un rasoir. Il n'y avait rien d'écrit sur la publicité, sauf l'avertissement d'usage du ministère de la Santé contre le tabagisme. Cette photo obsédante, qui revenait à intervalles réguliers, irritait et intriguait à la fois Robin. Et elle mit en branle sa pratique sémiotique et tenta de révéler la structure profonde qui se cachait sous cette surface innocente.
La soie chatoyante, avec ses courbes voluptueuses et sa texture sensuelle, symbolise le corps féminin. Et la déchirure elliptique est manifestement un vagin. Il est clair que cette publicité fait appel aux pulsions à la fois sensuelles et sadiques, au désir de mutiler et de pénétrer le corps féminin.
Faut vraiment que vous ayez l'esprit tordu pour voir tout ça dans un bout de chiffon totalement inoffensif.
Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Pourquoi utiliser un bout de tissu pour faire une publicité de cigarette ?
Eh bien, c'est ce que leur nom veut dire, pas vrai ? Silk Cut. L'image représente de la soie coupée, ni plus ni moins.
Et si on s'était servi d'une photo représentant un rouleau de soie coupé en deux ? Est-ce que ça marcherait aussi bien ?
J'imagine que oui, pourquoi pas.
Eh bien non. Parce que ça aurait l'air d'un pénis coupé en deux. Voilà pourquoi.
Pourquoi les gens comme vous sont-ils incapables de prendre les choses comme elles sont ?
Qui ça, les gens comme nous ?
Les grosses têtes, les intellos. Une cigarette, c'est une cigarette. Un morceau de soie, c'est un morceau de soie. Pourquoi ne pas en rester là ?
Quand on représente une chose, elle acquiert une signification nouvelle. Les signes ne sont jamais innocents. C'est ça que nous enseigne la sémiotique.
La sémi quoi ?
La sémiotique. L'étude des signes, la métaphore, la métonymie.
Je crois plutôt qu'elle nous enseigne à avoir les idées mal placées.
Pourquoi alors pensez-vous qu'on a nommé ces satanées cigarettes Silk Cut pour commencer ?
J'en sais rien. C'est rien qu'un nom, et il en vaut bien un autre. Et puis... si le fait de fumer des Silk Cut est un viol flagrant, comme vous le prétendez, comment se fait-il que les femmes en fument aussi, alors ?
Beaucoup de femmes sont masochistes par tempérament. Elles ont appris ce que l'on attendait d'elles dans une société patriarcale.
J'aurais parié que vous alliez trouver une réponse farfelue.
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si en colère. Ce n'est pas comme si vous-même vous fumiez des Silk Cut.
Non, je fume des Marlboro. Ça vous étonnera peut-être... mais si je les fume, c'est que j'aime leur goût.
C'est celle qui utilise comme pub un cow-boy solitaire, c'est bien ça ? Vous ne voyez pas que acheter la cigarette, c'est acheter un style de vie ou l'illusion de vivre ce style de vie ?
Ridicule. J'ai horreur de la campagne et de la vie au grand air. Et j'ai une frousse terrible dès que je dois traverser un champ où il y a une vache. Mais si je les fume, c'est que j'aime leur goût.
Eh bien, ce qui vous attire dans la pub, c'est peut-être la solitude du cow-boy. Sûr de soi, indépendant, très macho.
Bon. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Vous me permettez de fumer ? Bonne petite cigarette, bien de chez nous.
Oui. Si vous me permettez de mettre Radio Classique.
Mmh.
Venez déjeuner chez nous dimanche prochain. Rien d'extraordinaire, juste la famille.
Je regrette, mais... j'ai quelqu'un qui vient chez moi ce week-end.
Le dimanche suivant, alors ?
Il vient pratiquement tous les week-ends.
Amenez-le lui aussi, alors.
D'accord. Merci beaucoup.
Vic adorait être tout seul dans le bâtiment administratif. C'était un bon moment pour travailler. Mais ce soir, il n'en avait pas envie.
Tu aurais dû t'y attendre. C'était pourtant évident. Bien sûr qu'elle ne pouvait pas être vierge. C'est la femme la plus indépendante que tu n'aies jamais rencontrée. Et puis, intelligente avec ça. Malgré ses théories à la noix. Elle me fait penser à ce tableau avec une déesse grecque entourée de nymphes. Dans quel musée déjà ? Bouleversant. Qu'est-ce que tu fais ici, bon Dieu ? Plongé dans le noir à rêvasser sur des déesses grecques. Au lieu de travailler sur ton projet d'informatisation des stocks et des achats.
Néanmoins, Vic demeurait là, avachi dans son fauteuil, à penser à Robin Penrose et au déjeuner de dimanche auquel il l'avait convié.
Pourquoi me suis-je acharné ? Et pourquoi, bon Dieu, ai-je aussi invité le petit ami ? Une autre grosse tête à tous les coups. J'aurais dû laisser tomber. Ce déjeuner va être un désastre.
Cette certitude lui transperça le cœur comme un coup de poignard qu'il se serait infligé à lui-même. Ça allait être le premier souci à lui venir en tête le lendemain matin, et tous les matins jusqu'à dimanche. Et cette anxiété allait sans doute se transmettre à Marjorie, qui paniquait toujours de toute façon quand il recevait quelqu'un. Elle allait sûrement boire trop de sherry pour oublier sa nervosité, brûler le rôti ou faire tomber les assiettes.
Et de quoi allons-nous parler, bon Dieu ? De la sémiotique des hausses amovibles ? De la métaphore et de la métonymie dans les motifs de tapisserie ?
Mais maintenant qu'il l'avait invité, il fallait qu'il s'exécute. Et plus vite il s'en débarrasserait, mieux ce serait. À l'approche du dimanche et du déjeuner fatal, Vic devenait de plus en plus nerveux.
Marge, puisque je te dis qu'il faut une entrée.
On n'a jamais d'entrée.
Il y a un début à tout.
Qu'est-ce qui te prend, Vic ? On croirait que c'est la reine qui vient déjeuner.
Ne sois pas ridicule, Marge, c'est normal d'avoir une entrée.
Dans le restaurant, peut-être, pas la maison.
Chez Robin Penrose, je veux bien parier qu'on sert une entrée.
Si elle est aussi collée-montée.
Elle n'est pas collée-montée.
Mais je croyais que tu l'aimais pas. Tu t'es assez plaint.
Et au début, on a mal commencé.
Alors comme ça, tu l'aimes bien maintenant ?
Elle est pas mal. Je l'aime pas, je la déteste pas non plus.
Pourquoi l'inviter à déjeuner alors ? Pourquoi tout ce tralala ?
Parce que c'est une personne intéressante, voilà. On a des conversations intelligentes avec elle. Je pensais que ça changerait. J'en ai ma claque de nos déjeuners du dimanche avec les gosses qui chamaillent et papa qui radote sur le coup de la vie. J'ai simplement pensé que ça nous changerait.
Qu'est-ce que tu veux alors ?
Hein ?
Ouais. Pour ta chère entrée.
Je sais pas, je suis pas cuisinier.
Et moi, je ne sais pas cuisiner des entrées.
Les entrées ne sont pas nécessairement des plats cuisinés. Ça peut être quelque chose de cru, non ? Comme du melon.
Mais on ne trouve pas de melon à cette période de l'année.
Quelque chose d'autre, alors. Des avocats, tiens. T'as qu'à les couper en deux, enlever le noyau et remplir le creux de vinaigrette.
Mais ton père n'aimera pas ça.
Il n'est pas obligé d'en manger, alors. Et dis bien à Raymond que je veux pas le voir revenir du pub en plein milieu du déjeuner dimanche.
Pourquoi tu lui dis pas toi-même?
Toi, au moins, il t'écoute.
Ouais, s'il m'écoute, c'est parce que toi, tu lui parles pas.
Je perdrai mon sang-froid.
Tu devrais faire un effort, Vic. Tu ne dis jamais rien à personne dans cette maison. T'es trop replié sur toi-même.
Ne t'en prends pas à moi maintenant. Et oublie pas les serviettes en papier. Pour dimanche.
J'ai toujours des serviettes quand on a des invités.
Parfois on en manque.
C'est bien la première fois que je te vois t'inquiéter des serviettes.
Dans les yeux pâles et tranquilles de Marjorie, Vic vit passer un éclair d'affolement, une ombre de suspicion, comme quelque chose qui s'agite indistinctement sous la surface de l'eau. Et il comprit pour la première fois qu'elle avait de bonnes raisons d'éprouver de tels sentiments. Vic se sentit soulagé d'une bonne partie de ses angoisses lorsque Robin téléphona le samedi matin pour dire que son petit ami Charles avait un rhume et ne venait finalement pas à Remige ce week-end.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un avocat, idiot.
C'est une entrée.
On n'a pas d'entrée d'habitude.
C'est une idée de votre père.
Oui, je pensais que ça changerait un peu. Vous n'êtes pas obligé d'en manger si vous n'en voulez pas.
C'est un fruit ou un légume?
C'est plutôt un légume, papa. Tu mets de la vinaigrette dans le creux et tu manges avec une cuillère.
Un drôle de goût. On dirait du suif.
C'est bien meilleur avec la vinaigrette, monsieur Wilcox. Vous ne voulez pas essayer?
Non, merci, ma belle. L'huile d'olive ne me réussit pas.
Ça te donne la courante, hein, grand-père?
T'es franchement dégoûtant, Gary.
Oui, c'est vrai, mon gars. On appelait ça la déripette quand j'étais gosse. C'est parce que...
Oui, oui, non, mais on sait pourquoi, papa. Ou on le devine.
Tout doucement, Vic commença à se détendre. Grâce à Robin, la conversation à table ne fut pas aussi explosive qu'il l'avait craint. Au lieu de parler beaucoup et d'intimider toute la famille, elle les fit tous parler d'eux-mêmes en leur posant des questions. Raymond lui parla de son groupe de musique, Sandra de son envie d'être coiffeuse, Gary de ses jeux vidéo et le grand-père de son mariage avec la mère de Vic. Mais malgré toute la diplomatie dont elle faisait preuve, Robin ne parvint pas à dérider Marjorie, qui se contenta de répondre à ses questions par des murmures monosyllabiques ou de vagues sourires évasifs. Le repas se déroula donc sans histoire. Puis Vic proposa une petite promenade avant qu'il fasse noir, mais aucun des membres de la famille ne voulut le suivre. Une promenade tout seul avec Robin? Voilà ce qu'il désirait secrètement depuis le début.
Je ne pensais pas que vos enfants étaient si grands.
Il y a 23 ans que nous sommes mariés. Nous avons eu des enfants tout de suite. Marjorie ne demandait pas mieux que d'abandonner son travail.
Que faisait-elle?
Dactylo.
Ah.
Marge n'est pas une intellectuelle, comme vous avez pu vous en rendre compte. Elle a quitté l'école à 17 ans sans avoir de diplôme.
Est-ce que ça la gêne?
Non. Mais c'est moi que ça gêne parfois.
Pourquoi alors ne l'encouragez-vous pas à suivre des cours quelque part?
Quoi? Au lycée? Marjorie? À son âge?
Pas nécessairement au lycée. Il y a tout un tas de cours qu'elle pourrait suivre ailleurs. La formation continue pour adultes, par exemple.
Marjorie serait incapable de faire ça.
Parce que vous l'avez persuadée qu'elle ne pouvait pas le faire.
Ridicule. Marjorie est très heureuse de son sort. Elle a une jolie maison, avec une salle de bain contiguë, 4 WC, et tout l'argent qu'elle veut pour aller faire des courses quand elle en a envie.
C'est affreusement condescendant de parler comme ça de votre femme, je trouve.
sont mes gosses qui devraient s'inquiéter d'obtenir une qualification. Raymond a abandonné l'université l'an dernier. Il a échoué aux deux sessions d'examen de première année.
Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il était en génie électrique. Il est plutôt intelligent, mais il travaille pas. Et Sandra dit qu'elle veut pas aller à l'université. Elle veut être coiffeuse, ou coiffeuse visagiste, comme ils disent.
Évidemment, les cheveux comptent beaucoup dans la culture des jeunes aujourd'hui. C'est une forme d'expression. Une nouvelle forme d'art, presque.
C'est pas un boulot sérieux, pourtant, vous trouvez pas ? C'est pas vous qui feriez ça pour gagner votre vie.
Il y a tout un tas de choses que je ne ferai pas. Je ne travaillerai pas en usine. Je ne travaillerai pas dans une banque. Je ne serai pas femme au foyer. Quand je pense à la vie qu'ont la plupart des gens, surtout les femmes, je me demande comment ils peuvent supporter ça.
Il faut bien des gens pour faire tous ces boulots.
C'est bien ce qu'il y a de désolant.
Mais Sandra pourrait faire quelque chose de plus intéressant. Vous devriez lui parler. L'inciter à entrer à l'université.
Pourquoi voulez-vous qu'elle m'écoute ?
Elle m'écoute pas, moi. Et Marjorie s'en fiche. Vous êtes plus proche d'elle par l'âge. Elle tiendrait compte de ce que vous dites.
Est-ce qu'elle sait que je serai probablement au chômage l'an prochain ? Ce n'est pas une très bonne publicité pour l'enseignement supérieur, vous ne trouvez pas ? Elle gagnerait sûrement davantage d'argent dans la coiffure.
L'argent n'est pas...
L'argent n'est pas tout ? Je n'aurais jamais cru vous entendre dire ça.
J'étais sur le point de dire que l'argent n'est pas un sujet qu'elle comprend. Je prendrais bien une tasse de thé avant de partir.
Oh, il faut que je rentre. J'ai beaucoup de travail à faire.
Comment ? Un dimanche, ma belle ?
Malheureusement, oui. Il y a des corrections, vous comprenez. J'ai toujours du retard à rattraper. Merci pour ce charmant repas. Sandra, ton père aimerait que je te parle des avantages que représentent les études universitaires.
Ah oui ?
Tu aimerais peut-être venir me voir à l'université un jour.
D'accord. Pourquoi pas ?
Mais dis au moins merci, Sandra.
Merci.
Excusez les mauvaises manières de ma fille.
C'est rien.
Je vous verrai donc mercredi.
Si tout va bien.
C'était Jeux de société de David Lodge dans une adaptation de Juliette Eman. 7e épisode. Traduction Yvonne et Maurice Couturier. Avec Féodor Atkin, le narrateur. Sophie Guédon, Robin Penrose. Philippe Bautier, Vic Wilcox. Nicolas Gonzalez, Charles. Marie-Christine Letor, Marjorie Wilcox. Jean-Claude Sachaud, Monsieur Wilcox Père. Thomas Agols, Jerry Wilcox. Pauline Bell, Sandra Wilcox. Valran de Normandie, Raymond Wilcox. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Assistance technique et montage, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Jeux de société de David Lodge est publié aux éditions Rivage.